Europe 1.
Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud et aujourd'hui, je vous raconte le récit d'Irène Joliot-Curie, la fille de Marie et Pierre Curie. Ses parents sont connus pour leurs importantes découvertes scientifiques, et notamment celle de la radioactivité. Mais on connaît moins l'histoire de leur fille aînée, Irène, qui a pourtant elle aussi été une star de la science au XXe siècle. D'ailleurs, elle a eu un prix Nobel. Elle est aussi l'une des pionnières du monde politique français, puisqu'elle a été secrétaire d'État avant même que les femmes aient le droit de vote. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que vous allez découvrir dans ce nouveau récit en deux parties. Épisode 1. Une jeunesse au rayon X. Nous sommes le 19 avril 1906, rue Kellermann, dans le 13e arrondissement de Paris. C'est ici que vit la famille Curie. Irène a 9 ans. Elle observe la pluie frapper les carreaux de l'appartement pendant que sa petite sœur, Ève, joue à côté d'elle. Au même moment, à quelques rues d'ici, son père, Pierre Curie, sort de sa réunion des professeurs et quitte la Sorbonne pour se rendre à la librairie Gauthier-Villars, spécialisée dans les ouvrages scientifiques. Il a rendez-vous avec son imprimeur. Il est perdu dans ses pensées. Il réfléchit aux corrections qu'il doit apporter à son dernier article avant sa parution. À l'angle de la rue Dauphine, Pierre traverse la route pour se rendre quête Conti lorsque des bruits de sabots le font sortir brutalement de ses pensées. Il heurte l'un des chevaux d'un fiacre, glisse sur le pavé mouillé et tombe. Malgré une embardée, la roue arrière de la voiture heurte la tête de Pierre. Retour rue Kellermann. Marie Curie est inconsolable. Irène comprend que son père est mort. Marie décide de quitter la maison familiale pour s'installer dans une autre demeure avec un grand jardin près de la gare de Sceaux. La scientifique considère que ses filles, Irène et Ève, ont besoin d'air pour mener une vie saine. D'ailleurs, les deux sœurs font souvent des randonnées et des balades en vélo avec leur mère. L'hiver, Marie emmène Irène skier et faire du patin à glace dans le Jura. Marie doit désormais élever seule ses filles, et elle a de grandes ambitions pour elles. En revanche, elle ne fait pas confiance au système éducatif. Elle estime que les programmes sont mal faits, qu'il y a trop d'heures de cours et beaucoup trop de devoirs. Elle décide alors de rassembler quelques collègues du laboratoire où elle travaille et de monter une petite école alternative pour en faire bénéficier tous les enfants de ses collaborateurs. C'est Eugène Curie, le grand-père d'Irène, qui s'occupe des leçons de littérature. Marie, elle, enseigne la physique. Jean Perrin, qui est un futur prix Nobel, se charge de la chimie. Et Paul Langevin, qui est l'inventeur du sonar, fait les mathématiques. Leurs épouses enseignent le français, l'anglais, l'allemand. Un ami sculpteur prend en charge les cours d'art plastique. Les leçons n'ont pas lieu n'importe où. Les professeurs utilisent pour leurs enfants les salles de cours des établissements où ils enseignent. Et à 13 ans, Irène fréquente déjà la Sorbonne. Un jour, pendant la leçon de physique, Marie Curie pose une question à sa fille, mais Irène est dans la lune. Et Marie est une sanguine. Sans prévenir, elle attrape le cahier d'Irène et le lance par la fenêtre. L'écolière descend calmement le chercher et de retour dans la classe, elle a la bonne réponse. Marie inscrit malgré tout sa fille dans un lycée classique pour qu'elle puisse passer le bac. Irène a 15 ans. À cette époque, les établissements pour filles sont loin d'être aussi bons que ceux des garçons. Mais si Marie veut que sa fille obtienne ce diplôme, elle n'a pas le choix. Marie a donc sélectionné le collège Sévigné. Cet établissement laisse beaucoup de temps libre aux élèves et n'aborde pas les sciences humaines que Marie juge inutiles. En revanche, Marie insiste sur les langues étrangères. Irène doit pouvoir lire et communiquer en anglais, en français et en allemand. En 1914, un mois avant ses 17 ans, Irène décroche le bac haut la main. Cette année-là, sur 7539 candidats reçus, il n'y a que 400 filles. Irène s'apprête à entrer à l'université, mais la Première Guerre mondiale va bouleverser ses plans. Elle regarde les rues de Paris défiler par la fenêtre de son fiacre tout en protégeant du mieux qu'elle le peut les tubes à essai en verre et les becs benzène des cahotements de la route. Le laboratoire Curie déménage de la rue Cuvier, dans le 5e arrondissement, pour des locaux plus grands. Marie a perdu presque tous ses assistants à cause de la guerre. Irène, du haut de ses 17 ans, se voit confier de plus en plus de responsabilités. Une fois le déménagement terminé, Marie décide de se rendre utile. Pour elle, la science doit se mettre au service de l'humanité. Elle se met en tête de créer des unités de radiographie mobiles pour aider les médecins à mieux soigner les blessés dans les tranchées. Pendant la Première Guerre mondiale, les techniques militaires ont changé. Les obus à shrapnel font d'horribles dégâts sur le corps humain, et c'est grâce à la radiographie qu'on va pouvoir trouver les endroits exacts où viennent se loger ces éclats d'obus. Un jour, Irène accompagne sa mère pour obtenir l'autorisation d'accéder aux tranchées. Marie Curie est reçue par l'inspecteur général du service de santé. Là, elle se met à minauder pour accéder au front. Irène se retient de rire en voyant sa mère dans cette situation inattendue. Mais les résultats sont là. Grâce à l'inspecteur et à une véritable levée de fonds, Marie et Irène bricolent des camionnettes pour les changer en mini-centres de radiologie prêts à fonctionner avec 3 personnes. Un médecin, un manipulateur et un chauffeur. La détermination et l'énergie de Marie sont telles que les voitures sont mises en service dès l'automne 1914. Marie prend la tête du service de radiologie de la Croix-Rouge. Irène lui sert de manipulatrice quand elle fait des radios. C'est elle qui s'occupe des dynamos et des bouteilles de gaz qui alimentent le système. Marie demande ensuite à Irène de former les nouveaux manipulateurs des véhicules radiologiques qu'elles ont mis en place. Ces voitures qui permettent de radiographier les blessés sont appelées les petites Curie. Ce nom leur a été donné a posteriori par Ève, la petite sœur d'Irène. Irène a 18 ans. Sa mère estime qu'elle est désormais en âge d'aller seule sur le front. Elle l'envoie alors à Ypres, en Belgique. Elle devient responsable du service de radiographie dans un hôpital franco-belge. Irène, dans sa grande robe blanche d'infirmière, se retrouve alors à enseigner les méthodes de localisation des projectiles à des médecins militaires bornés. Pour elle, ils n'ont pas les notions les plus élémentaires de géométrie. Elle parvient tout de même à convertir les plus rétifs qui voient presque dans la radiographie une forme de miracle. Cette collaboration nouvelle entre les chirurgiens et les radiologistes a permis de faire un pas décisif vers la médecine moderne. L'année suivante, Irène supervise la création d'un service de rayon X à l'hôpital militaire d'Amiens. À 19 ans, c'est une véritable tornade en jupon qui négocie avec les fonctionnaires du réseau ferroviaire pour acheminer en urgence son matériel dans une ville régulièrement bombardée. Elle recrute un sergent et un jeune médecin comme adjoint. Personne ne négocie ses ordres. Mais à peine arrivée dans cet hôpital d'Amiens, elle se heurte à un problème qu'elle n'avait pas anticipé. L'incrédulité des médecins à l'égard des radios. En fait, avant la guerre, un des premiers médecins radiographistes travaillait dans cet établissement. Mais il faut croire qu'il n'était pas très bon parce que les chirurgiens étaient convaincus que cette technologie ne servait à rien. Mais les démonstrations d'Irène s'avèrent probantes et tout le monde finit par adopter ses méthodes de travail. De retour à Paris en 1917, Irène prend la tête de la formation des nouvelles infirmières en radiographie à l'Institut du Radium. Elle assure elle-même les cours pratiques. En rentrant du travail, Irène se plonge dans ses propres cours. Elle n'a pas voulu attendre la fin de la guerre pour commencer sa licence S-Sciences Physiques. Elle la termine en 1920, alors qu'elle est déjà depuis 2 ans la préparatrice de sa mère à l'Institut Curie. Après sa licence, elle commence à travailler sur sa thèse intitulée « Les rayons alpha du polonium » sous la direction de Paul Langevin, son ancien professeur du primaire. Un nouveau préparateur arrive alors au laboratoire. Il se nomme Frédéric Joliot et il va perturber ses plans. Pour découvrir la suite, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.